craignez pas. Les micros sont à votre disposition et vous pouvez ouvrir le feu dès maintenant. Je vois plusieurs mains, là, le troisième rang et puis de l'autre côté.
Oui, bonjour. Masquerie, j'ai une question par rapport au KMBS et à la décomposition 50-50. Vous avez parlé d'une structure capitalistique de type prenant pour le côté allemand, et notamment d'une propriété capitalistique qui nous ramène à quelques grandes familles. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, d'une part, qui sont ces grandes familles, et deuxièmement, qu'attendent-elles d'un tel projet? C'est la francophilie, c'est l'amour de Paris et le charme parisien, c'est une manière de rentrer dans... de regarder ce qui se passe du côté français.
Alors, je peux vous donner quelques éléments de réponse. Donc, du côté allemand, en fait, c'est derrière Crossmafai-Wegmann, hein, qui est l'alliance de Crossmafai, puis ensuite, c'est raccroché Wegmann. Vous avez la famille Bode, et avec Manfred Bode, qui était un peu le patriarche de cette famille, qui est décédé il y a 2-3 ans, et qui, lui, avait la claire volonté... D'abord, il était intéressé par son job. Hein. Il était passionné de l'industrie d'armement terrestre. Et puis ensuite, à l'époque, c'était important pour eux, pour cette société Crossmafai-Wegmann, de pouvoir effectivement... Alors c'est assez amusant, parce que c'est vraiment une relation de pire ennemi, hein, son meilleur ennemi, mais aussi à la fois son meilleur ami, Rheinmetall, puisque, vous le savez, hein, il y a plein de joint ventures où Crossmafai-Wegmann travaille avec Rheinmetall, que ce soit... le fameux PZH 2000, hein, l'obusier dont on parle, là, qui a été, il y en a certains qui ont été mis en Ukraine, le Léopard 2, le Boxer. Et donc, il y avait cette volonté, ils sont condamnés à travailler ensemble, mais à prendre un peu d'indépendance et surtout à éviter, hein, les appétits, Rheinmetall a d'énormes appétits, de se faire racheter par Rheinmetall. C'était aussi dans la donne. Donc, de se dire, à la fois, je préserve, j'évite de me faire racheter par Rheinmetall. En même temps, et Manfred Bode était vraiment dans cette logique-là, je fais quelque chose avec la France et puis je suis passionné par mon industrie. Aujourd'hui, ce serait plus difficile de vous répondre. Les descendants ont pris. Est-ce qu'ils ont toujours ce tropisme pour la défense? Bon, c'est à suivre. Hein. Mais voilà quelques éléments. Je voulais juste, avant de céder la parole à d'autres, parce que j'ai oublié de le dire, et puis en écoutant Nicolas, parce que je pense que c'est vraiment... C'est pas de moi, je crois que c'est un ambassadeur allemand qui l'avait dit, la problématique, quand un Allemand entend, quand un Français entend industrie de défense, il entend défense, il comprend défense. Quand un Allemand entend industrie de défense, il comprend industrie.
Bonsoir, colonel Pellabœuf de l'EMAT Béplan. Vous avez dit, monsieur l'ingénieur général, que les échecs n'étaient pas annoncés, qu'aucun renonçait. Et donc, ma question est, quels sont les signes qui peuvent nous dire qu'un projet est devenu un échec et qu'il faut chercher une autre solution? Et ma question se pose à tous les quatre, si vous permettez.
Malheureusement, je pense que l'échec, on le constate... toujours trop tard. C'est très difficile. Tout à l'heure, Arnaud parlait de cette sinusoïde, mais qui avait une tendance positive. Donc c'est toujours assez difficile de trouver où est réellement le trend par rapport au conjoncturel. Donc je n'ai pas d'exemple où on a pu prévoir suffisamment tôt qu'on allait avoir un échec. Ou alors, c'est dès le début. On voit qu'on ne peut pas s'entendre sur un concept, alors là, on se dit au revoir, ça va. Mais une fois qu'on a embarqué, surtout qu'on a, on a investi, les États ont investi, les industriels ont aussi énormément investi, on a du mal à sortir. On se dira, on trouvera toujours une solution pour s'en sortir.
Moi, je crois également que c'est difficile de le savoir parce qu'en fait, personne ne le dit franchement à aucun moment que c'est planté. Et ensuite, quand on voit la différence des comportements industriels, Si ça va mal, par exemple, sur un projet, par exemple le SCAF, par exemple, Trappier va être convoqué au cabinet du ministre au mieux, à l'Élysée, et on va lui dire maintenant t'arrêtes tes conneries, on veut ce projet, et comme il dépend quand même des exportations, il va rentrer dans le rang. Alors que les industriels allemands ne prennent pas leurs ordres auprès des politiques. Et ils font exactement ce qu'ils veulent. Et quand on se plaint des industriels allemands, ou quand on voit que les industriels des deux pays patinent, du côté allemand, on vous dit « démerdez-vous ». Tout simplement, « démerdez-vous », ça c'est les industriels, vous devez vous mettre d'accord. Et alors, il y a un côté tartuffe, parce que, comme j'ai dit, les industriels, c'est des grands spécialistes pour aller faire du lobby. Mais ce n'est pas forcément au niveau du gouvernement. Le gouvernement, il y a toujours une volonté politique d'avancer, parce que c'est important. Mais dès qu'on va vers... ils vont faire du lobby auprès des députés qui ont l'industrie qui va bien dans leur région, les chantiers navals du côté de Hambourg, ou bien, etc., ou bien de l'industrie aéronautique en Bavière. Là, on rigole plus. Il s'agit de défendre les emplois, etc. Donc il y a quand même aussi beaucoup de tartufferie. Mais effectivement, le pouvoir politique, le chancelier, ne convoque pas le patron de Rheinmetall. C'est plutôt le patron de Rheinmetall, il prend rendez-vous et voilà, et il va demander son aide au chancelier pour enfumer les Français. Donc c'est un petit peu. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, il y a un moment, il y a la nécessité calendaire. C'est-à-dire quand le truc il dérape trop et qu'on voit qu'on n'y arrive plus et qu'au lieu de l'avoir en 2040, on va l'avoir en 2050. C'est ce qu'on dit pour le SCAF actuellement, par exemple. C'était prévu 2040, il nous le faut en 2040. Et puis maintenant, avec les retards, on dit, tiens, ça pourrait arriver en 2050. Bon, si à un moment, ça dérape trop et qu'on n'est plus du tout dans le recouvrement capacitaire que l'on attend, ben, il faut savoir à un moment faire autre chose. Je crois que c'est ce qu'on a fait avec le Charles Leclerc, avec les projets qui ont capoté dans le passé. Mais en même temps, c'est en marchant qu'on le voit au quotidien, ça.
J'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Nicolas. Je crois que pour le vivre depuis 5 ans au niveau industriel... Je crois qu'il y a la volonté, enfin, quand je prends KNDS, hein, que ce soit les gens d'Exter ou les gens de KMV, c'est vrai que c'est un projet qui, pour nous, est structurant. Il y a la volonté d'y arriver. Alors après, à quel moment, c'est très difficile de savoir à quel moment le projet est planté. Et on évoquait, oui, c'est pas facile avec Rheinmetall, mais avec Rheinmetall aujourd'hui, sur en particulier tous les MTD qui ont trait au feu, au canon, à la tourelle, etc., ben on avance. Alors oui, tu as raison, Nicolas, hein, c'est, les Allemands, c'est non, il y a un problème. Écoutez, les industriels, vous avez pour le 15 juillet, vous devez nous donner une solution, rentrez chez vous et revenez avec une solution. Démerdez-vous. Et puis, on vous laisse faire. Mais je crois que c'est difficile de... Alors il y a peut-être eu des... Parce que je pensais, on a beaucoup parlé ce soir du Charles Leclerc, mais... Il y a eu le projet GTK, hein, qui était, ou GTK, qui a donné, pour faire simple, le VBCI chez nous, le boxeur en Allemagne, où on était. Bon, là aussi, à quel moment on a dit, à un moment donné, on a dit on divorce, mais d'emblée, au début, c'est assez difficile, je crois.
Oui, moi, je suis très d'accord. Et puis, en plus, je pense que ce qui est compliqué, ce qui nous permet difficilement de savoir à quel moment il faut s'arrêter, c'est qu'en fait, je pense que chacun reste sur sa position et se dévoilera au dernier moment. Parce que c'est jamais bon de porter l'échec d'un programme au niveau international. Donc, et d'ailleurs, enfin, Jean le sait encore mieux que moi, mais j'ai le souvenir, moi, que sur certains... Normalement, dans le temps, enfin, je dirais dans les années 80, c'était quasiment impossible d'arrêter un programme en coopération, parce qu'en fait, ça mettait l'autre en difficulté, etc. Ça donnait pas une bonne vision de son propre pays ou de son industrie. Alors bon, quand on pouvait pas faire autrement, on le faisait. Mais moi, je me souviens que sur la C3G, donc l'armement anti-char 3e génération, c'est les Britanniques qui ont dit on s'arrête parce qu'on n'a pas, on mettra, je sais plus, 50 millions de livres et puis ça s'arrêtera là pour le développement. La France et l'Allemagne, d'un seul coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Parce que, de toute façon, on ne pouvait pas continuer à deux pays. Et on s'est retrouvé dans une situation à laquelle on n'avait pas du tout pensé et qui était, effectivement... du coup, il y avait un pays, bon, le Royaume-Uni a assumé, mais qui portait la responsabilité de l'échec d'un programme. Et ça, je pense que c'est pour ça que ça doit être compliqué. C'est compliqué de savoir, puisque je pense que les pays se dévoileront, les industriels se dévoileront au dernier moment.
Oui, Christian Castagna, je suis collaborateur parlementaire et auditeur IHEDN. Je voulais simplement avoir une précision sur le système Patriot. Quand les Allemands négocient ce système, ce sont les industriels ou ce sont les diplomates ou ce sont les industriels et les diplomates? Qui a le lead sur le projet, d'une part? Et d'autre part, quand on discute comme cela avec 13 ou 14 pays, la France est-elle au courant au fur et à mesure de l'avancée des discussions ou elle apprend ça au dernier moment par le communiqué de presse?
Alors, d'abord, la France n'est pas partie prenante de ce projet. La France avait un projet avec les Italiens. Mais là, c'est un petit peu différent parce qu'il s'agit d'acheter un matériel sur étagère. C'est comme le F-35. Donc ça, c'est vraiment une décision politique. J'ai acheté du jour au lendemain, j'achète le F-35 et puis on n'utilisera pas le FCAS pour faire de la puissole ou du nucléaire. Voilà. Donc je pense que c'est une volonté gouvernementale très forte, mais il n'y a pas d'enjeu industriel. Simplement, on voit bien que la tendance atlantique de l'Allemagne plante pour toujours, j'allais dire, des projets industriels qui seraient similaires. Parce qu'à partir du moment où elle est suivie déjà par 14 pays, l'Allemagne, elle a une position qui est idéale actuellement, c'est que le centre de gravité de l'Europe s'est déplacé vers l'Europe centrale et de l'Est, et donc elle a une grosse influence sur ces pays. Et donc là, elle a à peine annoncé son projet, qu'il y a 14 nations, dont les Britanniques, bien sûr, parce que eux, là, pour être... Bien sûr, pour suivre les Américains et puis pour emmerder les Français, ils sont toujours présents. Et 14 nations ou États membres qui déclarent les suivre d'emblée. Et donc là, on devient à ce moment-là très isolé immédiatement. Mais la relation avec les États-Unis a été très abîmée à l'époque de Trump. Il y a eu un état de panique absolu. Moi, j'étais à Berlin avec Jean, d'ailleurs, un état de panique pendant 4 ans. De panique absolue à Berlin pendant tout ce temps-là. L'ambassadeur Grenell, pour vous dire un tout petit exemple, lorsqu'il est arrivé, son premier tweet, c'était au moment où Trump se désengageait avec l'Iran, etc., de l'accord nucléaire, il tweet « Les industriels allemands ont 6 mois pour quitter l'Iran ». Voilà, c'est comme ça qu'il a commencé, ça a été la première chose qu'il a tweeté en arrivant. Et ensuite, il a eu ce comportement tout le temps. Tout le temps. Voilà. Donc, je pense que derrière, il y a aussi la volonté de restaurer une relation parce qu'ils avaient perdu le père. Voilà. Leur boussole stratégique, pour le coup. Et donc, aujourd'hui, on voit bien avec le F-35 une volonté de toucher ma bosse, monseigneur, et puis avec le Patriot, eh bien de jouer aussi leurs propres intérêts au détriment des autres. Mais là, je pense qu'on est clairement dans une décision, j'allais dire, politique. Qui cisaille aussi nos intérêts. Maintenant, on n'avait pas de projet en commun sur un bouclier quelconque. Nous, on était plutôt opposés. D'ailleurs, il n'y avait pas d'urgence urgentissime. Hein. Mais là, effectivement, ils deviennent de plus en plus inféodés aux Américains. Mais si on commence comme ça, on y est pour 50 ans. Hein. Une fois que les systèmes sont lancés, c'est fini.
C'est quand même pas une affaire un peu peuple. Hein. C'est une affaire qui est traitée au sein de l'OTAN. Ça ne sort pas d'un chapeau comme ça de manière surprenante. Tous les pays européens avaient été mis devant ce projet américain. C'est une façon d'y répondre.
Oui, juste un mot sur les accords de coalition pour la formation du nouveau gouvernement allemand. Est-ce que ces accords sont-ils connus dans le domaine que vous suivez? Est-ce qu'ils peuvent influencer les financements pluriannuels?
Bah, oui, bien sûr. Alors, ils négocient ça pendant la première fois, quand on est arrivé en 2017, on négocie ça pendant 6 mois. Et c'est un accord écrit. Et donc, vous savez que les Allemands sont des juristes. Et donc, quand ils écrivent, c'est écrit dans le détail. C'est dans le détail. Et quand là, vous voyez qu'il y a quand même le mariage de la carpe et du lapin, il y a le SPD avec des libéraux et puis avec les Verts. Donc, par exemple, je n'ai pas regardé dans le détail, j'avoue, l'accord de coalition, mais il y a des choses vraisemblablement très précises concernant le nucléaire, les lignes rouges de chacun, etc. Alors peut-être, Jean, tu as suivi ça de
mieux. Rien de plus, mais là, pour préparer, j'ai regardé l'accord de coalition pour l'Euromal. Et pour l'Euromal, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué clairement que c'est les trois parties qui ont négocié leur accord de gouvernement. Et ils ont marqué clairement dans cet accord que le drone était à vocation de renseignement, à vocation de surveillance. Et je crois même qu'il est inscrit que dans le contrat, il n'y aura pas de contrat qui, pour armer le drone. Je crois même qu'il y avait ça d'inscrit. En tout cas, côté allemand, évidemment. Mais alors peut-être qu'ils vont venir dessus. Mais en tout cas, ça m'étonnerait parce que c'est quelque chose qui est inscrit.
Ces informations-là sont d'accès public.
Ah, bien sûr.
Oui,
tout à fait. Le contrat de coalition est d'accès public.
Il est absolument public, le contrat. On peut le lire. Moi, je ne l'ai pas lu. C'est un truc fastidieux. On l'avait épluché en 2017. Et c'est un pataquès comme ça, mais dans tous les domaines. Hein. Économique, etc., défense. Voilà. Donc, et ils vont dans le détail. Parce qu'en fait, comme au départ, ils sont d'accord sur rien, mais qu'ils font une coalition. Imaginez les Républicains se faire une coalition avec les socialistes chez nous. C'est impensable. Et avec les Verts, vous voyez. Donc, mais chez eux, c'est faisable. Mais à partir du moment où le cadre de travail soit clairement posé au début, donc ça délimite. Et ça veut dire aussi qu'ils s'interdisent un certain nombre d'audaces. Forcément. Puisque c'est le minimum monimorum acceptable par chacun. C'est le consensus. Donc c'est la base du consensus, le moule le plus absolu, et c'est la raison pour laquelle il n'y a jamais de coup de barre extraordinaire chez les Allemands, parce qu'ils doivent se conformer à ce qui a été écrit et qui ne blesse aucun des partis de coalition.
Et c'est pour ça que le chancelier, en fait, ou la chancelière, il est primum inter pares, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire plus que ce qui est inscrit dans l'accord de coalition. Donc c'est difficile, il n'est pas comme le président de la République. Comme disait Nicolas tout à l'heure, qui décide on va faire ci, on va faire ça. Il ne fait que ce qui est inscrit dans le contrat, puisque c'est lui qui mène la coalition.
Non, et un sujet là, pour compléter, hein, a fait l'objet de la plus grande attention de la part des industriels français en particulier. Alors, dans la suite du traité d'Aix-la-Chapelle, il y a un codicille hein, qui permet d'autoriser pour la France et l'Allemagne, selon certaines règles, de pouvoir exporter des produits sur lesquels il y a seulement 10% de composants allemands et l'autre pays, sauf atteinte à ses intérêts nationaux, autorise le pays concrètement. La France, on a un char dans lequel il y a 20% de produits allemands. Tant qu'on est à 20%, la France peut exporter ce char dans le grand export, même si ce n'est pas un pays qu'aiment trop les Allemands. Voilà. Et donc, dans le contrat de coalition, avec les Verts, ne l'oublions pas, il était écrit que c'est souvent une technique des Allemands, ce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord ou à faire passer au niveau national, on va passer par le haut, en passant par l'Europe, en disant, ben voilà, on va faire en sorte qu'au niveau européen, il y a une réglementation commune européenne sur l'export. Bon, ça, c'est un sujet, c'est une ligne rouge hein, pour notre ministère des Affaires étrangères français. Nous, on le sait, on a une politique orientée sur le grand export qui fait partie de notre politique étrangère. Et pour nous, c'est une ligne rouge. Bon, alors, ça, c'est un point, effectivement, les industriels ont vu ça, on va dire, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu l'Ukraine, et après, il peut y avoir au sein de la coalition, après, mais là, je laisse les experts à droite et à gauche, qui font qu'après, il y a des deals où, certes, c'est dans le contrat, mais bon, on ne va pas trop y avancer parce que y a d'autres deals à côté. Donc, pour le moment, on n'en parle pas. Mais c'était très clairement un point qu'on avait regardé, sur lequel on avait identifié une menace.
Oui, je veux bien revenir un moment sur la question du choc des cultures. Je suis moi-même biculturel et ça me frappe toujours voir comment, à quel point, malgré nos similitudes, nos affections réciproques, en fait, les Allemands ne sont pas des Français qui parlent allemand, les Français ne sont pas des Allemands qui ne parlent pas français. Vous avez parlé, donc au sein de KMDS, de cette alliance entre une structure capitalistique de type privé, une structure étatique avec GIAC comme opérateur. Est-ce que ça ne ressemble pas, je caricature évidemment, mais si la régie Renault existait encore, à une sorte de mariage entre la régie Renault avec ses syndicats et puis Porsche, Mercedes et BMW de l'autre côté? Est-ce que ça peut marcher? Première question. Deuxièmement, vous avez parlé au niveau de Rheinmetall, vous l'avez dit gentiment, de leur suspicion ou de leur scepticisme vis-à-vis du colbertisme français. Pour un Bavarois, ce n'est pas du colbertisme, c'est du soviétisme. Et troisième aspect, pour expliquer l'atlantisme radical, ancré dans la durée des États-Unis, des Allemands, il y a cette anecdote historique, alors maintenant tout ne s'explique pas. pas par l'histoire, mais quand il y a eu la bataille de Berlin, qui fait 300 000 morts quand même, et que les Russes sont arrivés dans les belles villas allemandes les, ou les maisons cossues de Berlin, ils ont dit, mais pourquoi ces gens nous ont-ils attaqués? Quand ils ont vu, ouvert les placards, ils ont vu de la broderie fine, ils ont vu des vaisselles dorées, ils ont vu un niveau de vie qui était inimaginable pour eux, et inversement, les Allemands n'ont eu qu'une hantise, c'est les viols, c'est l'occupation soviétique, et donc ils sont précipités dans, dans le bras des Américains, c'est ce qui traîne encore dans l'imaginaire d'une partie des Allemands. Voilà. Est-ce que ça peut fonctionner dans ce cadre-là, avec deux héritages historiques totalement différents?
Non. Je, pour revenir sur le premier point, bon, sur le montage qui a été retenu, j'insiste bien là-dessus. Bon, KNDS est vraiment une société privée. La consolidation financière se fait au niveau KNDS, c'est-à-dire que Nexter, on a un directeur financier unique et on est vraiment sur une logique d'une entreprise complètement privée. Après, derrière, vous avez des capitaux qui ont été mis en place, mais la logique de fonctionnement de KNDS, et justement, c'est ce qu'on essaye de à travers ce qu'on peut faire pour bien expliquer à nos partenaires allemands que Nexter, ce n'est plus le GIAT ou le GIAT Industrie des années 90. Il y avait déjà eu la transformation du GIAT en du GIAT Industrie en Nexter en 2006. Hein, et ça, je pense, c'est vraiment c'est une contre-vérité. Alors sur lequel a joué Rheinmetall en disant, pour faire peur, en disant, voilà, ce que je disais, attention, Nexter, regardez, derrière, il y a des capitaux, donc ils sont restés, c'est l'État français, et d'ailleurs, en fait, regardez, ils prennent le lead, et puis regardez sur le programme, hein, je disais, trois acteurs, mais regardez, finalement, ben oui, d'accord, 50% pour la France, ok, 50% pour l'Allemagne, mais les 50% pour l'Allemagne, 25% pour KMV et 25% pour Nexter, donc pour Rheinmetall, donc CQFD, 25% de plus 50% français, c'est 75% KNDS, mais KNDS c'est français, puisque c'est complètement bouffé, donc c'est français et en plus c'est étatique français. Alors c'est simpliste, mais je vous assure qu'on a, vu des documents où il y a une campagne de presse, hein, je me souviens Nicolas, très forte de Rheinmetall pour expliquer ça. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de contre-vérités, mais plus c'est connu, plus le mensonge est gros, mieux il passe. Hein. Et en particulier vers une classe politique qui est très sensible à ça, et avec un pouvoir très important, parce qu'on sait très bien, vous avez un plafond, hein, qui je crois, c'est les usages, mais qui est autour de 15 millions d'euros, hein, 25 millions d'euros, où ça doit passer systématiquement, ils n'ont pas de LPM. Alors il y a eu des tentatives. Je me souviens d'un député allemand qui disait ça peut être intéressant, ils n'ont pas de LPM. Donc, en fait, à chaque fois, ça repart à zéro. Et je ne sais plus qui évoquait les problématiques de budget pluriannuel. C'est très compliqué parce que ça va passer. Et puis, si la commission du budget, parce que c'est la commission du budget, commission financière du Bundestag, qui va dire on vote. Et puis, si dedans, il y a des députés qui sont liés à telle ou telle partie de l'Allemagne dans laquelle vous avez plutôt du Rheinmetall ou plutôt du MBDA ou je ne sais quoi, ils vont dire, nous, on ne votera pas. Et la discipline politique en Allemagne, moi, ça m'a frappé. Enfin, là encore, j'ai des gens plus expérimentés que moi. Un député CSU, CDU, il y a peut-être une ligne du parti, c'est comme ça, mais s'il a, comme c'est très territorial, s'il a un ancrage territorial fort avec telle ou telle entreprise, eh ben, il va voter. On a eu des députés CDU qui étaient dans les chantiers, qui ont voté contre pourtant des décisions ou des orientations, on va dire, qui étaient données par le politique allemand, et en particulier à l'époque par une chancelière CDU-CSU.
Peut-être une dernière, là.
Oui, bonjour. Jean-Claude Allard, ancien directeur du programme HOT, et puis accessoirement plus tard, co-directeur à la direction générale de GIAT, division armes et munitions. J'ai bien connu les deux aspects, et je vais apporter une note optimiste dans toute cette conversation. Il y a un truc qui a très bien marché, que vous avez cité, Milan, HOT, Hollande. Pourquoi ça marchait bien? Parce que d'abord, les deux patrons français et allemands, Stoff, directeur des engins en France, et Coulot, directeur de Messerschmitt, Bölko, Blohm, MBB en Allemagne, Otto Brun à côté de Munich, on rejoint votre observation, ils avaient comme volonté de faire marcher le système ensemble. Donc c'était les industriels meneurs, les services officiels étaient très derrière, ils suivaient. Désolé. Et ils ont fait une organisation complètement intégrée, Euromissile. Moi, j'étais personnellement co-directeur avec Manfred Leupold, l'autre co-directeur du programme HOT. On était à Euromissile la moitié de la semaine, et on rejoignait notre division l'autre moitié de la semaine, où on appliquait les ordres qu'on s'était nous-mêmes donnés, et on faisait tourner nos équipes. C'était sans faille, il n'y avait aucun problème. Il faut commencer par parler allemand, anglais accessoirement, et s'entendre bien, différence de culture, ok, mais ça marche très bien. On s'entend très bien avec des Allemands quand il y a un intérêt commun, humain, on se recevait entre familles, et industriel, évidemment. Alors, l'intérêt industriel, c'était évident. L'Allemagne commandait 2000 Milan quand la France en commandait 1000, donc c'était dissymétrique, mais les Allemands avaient vite compris que l'export passait par la France. Donc, le programme faisait marcher l'usine de Naberne, l'usine de Tobun en Allemagne, les usines de Bourges en France. Complètement intégrées. Je passe. Il y a eu différents programmes, en particulier l'hélicoptère franco-allemand. Alors, là, on se heurte à des problèmes étatiques. Les Allemands ne voulaient pas de Fenestron parce que c'était la marque française. Ils voulaient tireur devant, pilote derrière, parce que le pilote doit contrôler le tireur. En France, c'est exactement le contraire. Les industriels ont dit, pas de problème, on va faire un hélicoptère capable de... Pas de Fenestron. Ils ont mis le pilote là où il fallait pour l'Allemagne et là où il fallait pour la France. Les industriels se débrouillent toujours. J'ai vécu ensuite au GIAT, à des niveaux qui m'ont permis de voir comment ça fonctionnait. Rheinmetall, vous vous en sortirez jamais. J'ai essayé d'appliquer les méthodes Euromissile sur le GIAT. Vous vous en sortirez jamais. Il faut enfermer les industriels dans une pièce. Movag, Krauss-Maffei, Rheinmetall, incontournable en Allemagne, l'équivalent en France, et vous leur dites, vous avez 8 jours pour vous mettre d'accord. La solution, elle est connue. C'est un châssis Léopard, avec un canon fabriqué en commun par Rheinmetall et GIAT. Le moteur, on s'en fiche, parce que ce soit un moteur français ou que ce soit un moteur MTU, le client, il dira de toute façon, et je suis d'accord avec vous, les industriels sont suffisamment lobbyistes en Allemagne pour contourner toutes leurs règles. Écologiste, pas écologiste. Moi, j'ai vécu les voyages en Irak. On vendait du matériel avec les autorisations françaises. Les fabricants allemands étaient dans le même avion, mais eux, ils vendaient des porte-chars. Ils vendaient des camions, qui étaient des matériels civils. Le porte-char, ça s'appelait pas un porte-char, ça s'appelait un porte-remorque. MTU, dans le pays où le Leclerc a été vendu à l'export, il a fait tout son lobbying pour se débrouiller, pour faire monter un moteur MTU dans le char Leclerc. MTU était présent, malgré toutes les règles allemandes, parce que MTU vendait des moteurs pour les bateaux du pays qui achetait le Leclerc. Donc ils sont présents partout, ils sont pragmatiques, mais bien que ça soit incontournable, il faut faire avec. Et ça marche, ça marchera votre affaire. Mais un bon conseil, intégrez vos équipes. Faites en sorte que les Allemands et les Français travaillent ensemble dans le même bureau, avec les mêmes familles qui se reçoivent. Un Français qui parle allemand, ça c'est très respecté en Allemagne. Et ça marchera, si évidemment il y a une volonté politique.